ils n'ont jamais vécu l'expérience d'un match de hockey au mois de juillet. Martin McGuire, Danny Dubé sont avec nous. Salut, messieurs.
Il y avait un groupe qui avait chanté une toune, hein, « Vive dans la bulle ». Non, ouais, c'était pas « Vive dans la bulle ».
Messieurs, comment allez-vous, Danny?
Ça va très bien, très bien.
Oui, Martin? Vraiment.
Ça va bien.
Oui, ouais. Messieurs, fébrile à l'arrivée de ce match?
Absolument.
Ouais.
Absolument.
Fébrile et curieux, j'imagine?
Les deux. On a eu beaucoup de discussions, Martin et moi, au cours des derniers jours pour... un petit peu ajuster, simplifier tout ça. Quand moi, je reviens toujours à la formule de base. Quand il y a du changement, pour gérer le changement, il faut que tu simplifies les choses. Mm-hmm. Parce que quand il y a trop de balles dans les airs, il y a trop d'affaires, il faut que tu te concentres sur les choses qui sont essentielles. Alors nous, je pense que notre mandat aujourd'hui, dans un match préparatoire, c'est un peu comme les joueurs, c'est de s'assurer de bien faire les choses de base, donc l'essentiel. Puis après ça... Comme le disait affectueusement notre ami Pat Burns, on mettra un peu de crémage après.
on va commencer ça simple, on mettra du crémage ensuite.
Il faut faire attention au plancher ici avec le crémage.
Oui, ça peut être glissant.
Tu veux pas qu'on finisse par faire comme les plages en Gaspésie. Là. Tu veux pas qu'on...
Non, clairement. Tout ça. Martin, évidemment, on se prépare pour ce match du côté du Canadien face aux Leafs de Toronto.
Oui, j'ai des petites nouvelles pour vous autres parce que là, on connaît l'alignement. Le Canadien, donc, s'est entraîné ce matin puis on a concocté un alignement avec 13 attaquants, Jérémy, et 7 défenseurs. On donne pour ce match pré-saison l'option aux entraîneurs d'habiller un attaquant supplémentaire et un défenseur de plus parce qu'évidemment, il y en a seulement un match préparatoire et les équipes ont amené 31 joueurs. Alors, pour le Canadien, on verra les mêmes trios qu'on a vus dans les derniers jours d'entraînement. Là. Tatar, Dano, Gallagher, Drouin, Suzuki, Armia, Byron, Kotkaniemi, et Lekkonen. Je ne sais pas s'il fallait que je mette le numéro 4 sur ce trio-là ou le numéro 3, mais on aura également Weiss en compagnie de Domi et de Will. Le 13e attaquant, ça va être intéressant, puis je suis convaincu que Danny va mordre là-dedans, c'est Alex Belzile qui a été choisi comme le 13e attaquant. Ça peut être significatif. Mm-hmm. Ça veut dire que s'il y en a un qui ne file pas ou qui est blessé ou qui a besoin d'un petit choc, il ne faudrait pas se surprendre de voir Belzile proche. À la défense, là, on a reformé le top 3 des derniers matchs de la saison. Chiarot, Weber, Kulak, Petrie complètent le top 4. Et là aussi, c'est intéressant. Ce soir, on verra Mété à gauche et Ouellet à droite sur le troisième duo, donc le défenseur en extra et le jeune Fleury. Dans les derniers jours du camp d'entraînement, Claude Julien avait dit que Ouellet avait peut-être une place sur le top 6. Eh bien, je pense que pour le seul match pré-saison, là, de voir Ouellet en uniforme, ça donne une bonne idée de ce que Claude Julien veut faire avec son top 6.
Tu veux-tu, Danny, est-ce que tu veux nous parler de Belzile? Comment tu vois ça, toi?
Ben, écoute... Quand tu regardes l'arrivée de Belzile dans l'alignement comme ça, je pense que celui qui doit être nerveux, c'est Kotkaniemi. Mm-hmm. Parce que sur ton quatrième trio, comme entraîneur de la Ligue nationale, tu vas avoir beaucoup d'énergie. Mm-hmm. C'est rare que tu vas avoir de la finesse. Tu vas avoir quand même des joueurs qui sont capables de tenir le rythme et qui rencontrent les standards. Là. Mais de façon générale, tes gars sont capables de tuer des pénalités, de prendre des minutes dans des situations. Et je pense que Belzile plaît aux entraîneurs de par son attitude, son enthousiasme, etc.
C'est une belle histoire, absolument.
Puis je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Kotkaniemi, il est moins bon que lui, là. Mais il y a plus à offrir dans un court laps de temps. Puis il rencontre plus les critères d'un quatrième joueur de centre, ce qui nous amène à parler de Domi, qui ne restera pas longtemps dans une situation aux côtés de joueurs qui sont considérés comme des joueurs de périphérie sur un quatrième trio.
Ouais. On va avoir une petite permutation là. Puis je pense qu'on veut donner un petit peu de place aussi à Jordan Wheel, tu sais, comme attaquant de deuxième vague après le top 6. Là, on l'a vu pratiquer en avantage numérique, Jordan Wheel. Vous allez voir notamment ce soir là, les unités qu'on a vues aussi à la fin de la saison, l'unité Weber et l'unité Petrie. Là, Gallagher, Jonathan Drouin, notamment sur la première unité, avec Nick Suzuki qui pivote cette unité-là. Mm-hmm. L'autre unité est pivotée par Max Domi. Ça rejoint un peu ce que dit Danny.
C'est une question de temps. On donne
le pivot de la deuxième unité d'avantage numérique à Max Domi. Alors, c'est un signe avant-coureur.
À moins qu'un quatrième trio, même si
Kotkaniemi est sur cet avantage numérique-là.
À moins qu'un quatrième trio crée des étincelles. À moins qu'on ait quelque chose de spécial, ça devrait changer. Logiquement, tu vas utiliser Max Domi à une autre place que sur ton quatrième trio.
Ben, moi, je pense que la stabilité établie, elle est sur les deux premiers trios. Après ça, là, Byron puis Lekkonen vont jouer ensemble. Qui va pivoter le trio? Ça va dépendre. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu à 55 de Kotkaniemi va être impératif. Il devra être très bon dans ce qu'on appelle les jeux de base, dans tout ce qui est phase défensive. Il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour lui parce qu'on n'a pas de temps. Là. C'est un 3-5. Il ne commencera pas à dire ouais, on va lui donner une chance. Moi, j'adhère pas beaucoup à ça dans le contexte actuel. Je parle bien du contexte actuel. Si on était en début de saison, c'est une autre affaire complètement. Là. On parle d'une autre chose. Mm-hmm. Mais là, il y a déjà un sentiment d'urgence.
C'est la formule sprint qui est complètement différente.
Tout à fait, c'est bien dit.
Habituellement, on parle d'un marathon, on parle d'une longue saison, il y a des ajustements. Là, on est sprint puis c'est le 100 mètres. Là.
Par contre, il y a quand même une chose qu'il faut mentionner. Claude Julien, dans la dernière journée du camp d'entraînement, la question politique a été posée par rapport à la place de Domi sur ce qu'on pourrait appeler un quatrième trio. Ouais. Et Claude Julien a quand même dit dans l'élément de réponse qu'il essaie pas de dire que Kotkaniemi est meilleur, mais il a quand même dit une chose. Il dit, on a la responsabilité de développer nos jeunes joueurs.
Ouais.
Ça reste une phrase qui a été importante dans l'élément de réponse qui a été donné par Claude Julien.
Mm-hmm. Oui, ben, et je pense que la responsabilité de développer les jeunes joueurs, c'est pas une responsabilité qui appartient à une seule personne.
Non, ça c'est sûr.
C'est une responsabilité qui appartient à une organisation. Mm-hmm. Et dans le cas qui nous intéresse, l'organisation avait pris une décision un peu hâtive en gardant un jeune joueur, très jeune d'ailleurs, le plus jeune de la Ligue à l'époque, de le garder dans la Ligue nationale. Après un certain temps, on a perçu que la meilleure des choses, c'était de prendre du recul.
Mm-hmm.
Je pense qu'on est toujours au même point avec Kotkaniemi. On est toujours dans ces observations-là.
On l'a vu dans la deuxième semaine du camp, là, puis
oui,
on s'en est parlé, ouais. Jérémy, en onde, là. Quand on a pratiqué avec des méchants qui essayaient de lui enlever la rondelle puis qui essayaient de faire en sorte qu'il n'ait pas la rondelle, c'est devenu plus difficile. Parce que la première semaine du camp, c'est Claude Julien a dit, il patine bien, puis tout ça, il y a un peu plus d'autorité dans son jeu. C'est parce que les exercices ont fait ressortir ça. Mais de la minute que l'espace s'est refermé, comme dans les matchs hors concours, entre le premier match hors concours d'un camp d'entraînement et le dernier match, là, l'espace se referme, les alignements ressemblent un peu plus aux alignements de la Ligue nationale. C'est là qu'on a revu, malheureusement,
la force physique n'amène pas nécessairement la rapidité d'exécution.
Non, c'est deux choses différentes.
Être entraîné, mais la rapidité d'exécution, c'est pas ça.
Je suis d'accord avec toi, puis la gestion de tout ça... Tu vois une différence quand Martin fait allusion à des situations de jeu. Parce que là, l'entraîneur enseigne des situations ou revoit pour rafraîchir les joueurs, pour être sûr que tout le monde comprend bien ce qu'on essaie de faire. Là, parce que c'est une des clés, c'est est-ce que tout le monde comprend ce qu'on essaye de faire? Parce que c'est beau parler du système.
As-tu le temps d'expliquer ça en une semaine,
deux
semaines?
Oui. Tu as le temps. Tu as toujours une période avant d'aller sur la patinoire où tu revises tous les éléments, puis ça demeure...
Ils ont fait du vidéo avant les entraînements.
Ouais,
ils pouvaient se retrouver en groupe pour ça.
Puis
ils n'ont pas changé beaucoup, là. Je vous le dis, ils n'ont pas changé beaucoup d'affaires. La seule chose, puis entre autres, tantôt, on a eu une conversation d'avant-match avec Claude Julien, là, puis il les veut agressifs. C'est ça, là-dessus, il a répété, là. Il dit, moi, je les veux incisifs sur le porteur de la rondelle. On veut presser. Ils veulent presser Pittsburgh, les forcer peut-être à faire des jeux risqués et tout ça. Puis on va le faire ce soir contre Toronto, c'est sûr. Là.
Mais regarde, c'est clair.
J'allais dire, c'est ça la clé du tournoi?
On a parlé il y a quelques jours, je t'ai dit, espace-temps, déranger la meilleure des deux équipes, soit les Pingouins, les empêcher d'avoir de la latitude, du temps pour respirer. Tu sais, je veux dire, faut pas que tu aies le temps de regarder autour de toi, le bing. Et ça, tu n'as pas besoin de talent pour faire ça. Mais tu as besoin d'intensité.
Tu as besoin de jambes, tu as besoin de patiner et tout ça.
Je veux juste
que les gens nous comprennent. Tu sais, quand on parle d'agressif, là, on parle pas d'aller...
Pas de bataille.
Il n'y a pas de bataille, puis il n'y a pas d'aller frapper. Là.
Non, mais c'est de réduire l'espace.
C'est agressif sur le porteur de la rondelle pour que les gens nous...
Oui.
Pas être passif dans le jeu, en fait.
C'est
d'être très rapide pour aller vers le porteur, éliminer les options de passe, pardon, et s'assurer que le joueur qui est en possession de la rondelle n'a pas beaucoup de temps d'être créatif.
Mm-hmm.
Et moins tu as de temps, plus tu prends l'option la plus simple. Si tu prends l'option la plus simple, tout le monde l'a vu, donc c'est facile d'anticiper. Moins tu prends de plus tu prends de temps, ben là, tu donnes, tu ouvres la porte à plusieurs alternatives.
Et
à
tu ne veux pas laisser sortir la créativité de Crosby et de Malkin.
C'est pas une bonne idée.
Ça va être un bon entraînement ce soir parce que tu ne veux pas que la créativité de Marner, de Matthews et de Tavares ressorte. Nylander. Puis là, eux autres, ce soir, ils ont Morgan Riley là, aussi. Là, parce que les dernières fois que le Canadien a affronté les Leafs, quand ils les ont battus la dernière fois, Morgan Riley n'y était pas. Puis là,
ça change la donne. Messieurs, moi, je me questionnais, et Paul Byron en a parlé hier en disant il y aura de la rouille. Il y aura de la rouille dans ce qu'on va faire. Je me questionnais sur le niveau de jeu. On a eu un premier match préparatoire, les Pingouins qui affrontaient les Flyers de Philadelphie. Et d'ailleurs, on parlera au collègue Jérémy Filosa qui a regardé le match et je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux comment le jeu était rapide et qu'on ne sentait pas tant de rouille que ça. Donc, veut pas, quand on parle de sprint, il faut que ça arrive rapidement. Il faut que ça clique rapidement ton club. Il faut que tu embarques rapidement dans la machine.
Moi, je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai regardé 5 minutes comme ça là, du coin de l'œil. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrêts de jeu puis ça frappait pas beaucoup.
Ouais, ça risque d'arriver ce soir. C'est parce que
c'est quick, ça bouge.
Non, mais c'est parce que aussi les joueurs, là, ils se donnent.
Font attention un peu.
Ils gaspilleront pas d'énergie.
Puis ils vont faire attention. C'est le premier match, ce soir, là, c'est du synchronisme. Ouais. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez du Canadien contre les Leafs dans toutes les phases de jeu. Par contre, je te dirais que moi, je pense que le Canadien, au niveau du désavantage numérique aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va conduire les décisions des entraîneurs pour les prochaines étapes.
On a gardé à peu près les mêmes duos là, pour le désavantage numérique. Je vous donne l'information. Là. Dano a retrouvé une nouvelle fois Kotkaniemi. Puis on va utiliser Byron et Dale Weiss comme duo d'attaquants sur le désavantage numérique. Et Fleury est le 7e défenseur. Mais dans le camp d'entraînement, dans les derniers jours, Fleury a pris presque toutes les répétitions parmi les défenseurs en désavantage numérique. On a également utilisé Ben Chiarot, qui est le gars important à la ligne bleue en désavantage numérique. Puis aussi, je pense qu'au besoin, là, il va avoir du Weber. Il va avoir du Weber en avantage, en désavantage, puis à 5 contre 5. Il nous a dit qu'il était en forme, le capitaine. Je pense qu'il va avoir du temps de glace.
Bien, je m'intrigue, moi, sur les gros diesel. Parce que, oui, parfait, on a des petits joueurs rapides qui peuvent garder la forme, le coup de patin, l'agilité. Mais tu as deux gros diesel, tu as Chiarot et tu as Shea Weber qui sont là. Danny, comment tu vois ça, l'adaptation, période d'inactivité de 4 mois, revenir, 2 semaines de camp d'entraînement, match, là, le tour de qualification. Ces gars-là, comment ils vont s'adapter?
Moi, je pense qu'eux autres, le match d'aujourd'hui, c'est un match repère. Là, je vois vraiment pas de problème.
Moi, j'ai pas vu de différence au camp d'entraînement avec ces deux-là.
Je vois pas de problème. Ouais. Je regardais les entraînements, surtout dans la deuxième semaine où il y avait plus d'engagement physique, plus de bagarre territoriale, ça se frottait plus, là. Puis on a senti que ces gars-là étaient à niveau, là. Ça, c'est pas... Moi, les gros joueurs, j'ai pas vraiment... Moi, je pense que dans l'exécution, on a parlé de l'état de la glace à un moment donné. On a dit, tu sais, le troisième match, c'est la même patinoire,
peut-être.
Là, ça va peut-être avoir un impact sur la qualité de l'exécution, sur le niveau de patinage, parce que la glace va être dans un moins bon état, je pense, en tout cas. Là. Et habituellement, ben, s'il y a une équipe des deux à qui ça devrait servir, c'est le Canadien, parce que logiquement, s'ils veulent être à la poursuite de l'adversaire, ça veut dire que le temps de possession de rondelle, c'est plutôt les Pingouins qui vont l'avoir.
On a vu, je ne sais pas si je devançais un de tes points de discussion, mais écoute, on a vu le jeu de Price progresser également. Là, c'est un vétéran, il commence à connaître le tabac, là, puis on a vu son jeu, son engagement devant son filet a augmenté plus les jours avançaient aussi.
Mais chouette de voir une formation du Canadien de Montréal extrêmement serrée défensivement, qu'on ne soit pas obligé de voir un spectacle Carey Price.
Bien, en fait, ce que tu veux, c'est que il soit tellement bon défensivement que comme ça, ils entrent dans la tête de l'adversaire. Et donc, le cas échéant, Price, parce que c'est le gardien de but. Fait que si t'es bon défensivement, c'est le gardien qui va en bénéficier. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas beaucoup... T'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, le 4 contre 5, je parlais hier du 4 contre 5, à quel point ça va être important, parce que si le 4 contre 5 est bon, ça veut dire que Price joue bien. Si Price joue bien parce qu'on lui donne la chance de faire les arrêts, de contrôler le jeu, de garder l'adversaire dans des zones où il va être moins efficace, ça va finir par rentrer dans la tête des Pingouins. Donc, aujourd'hui, c'est important pour l'équipe, et le succès défensif en général, d'avoir une bonne prestation défensive. Je serais pas très content si j'étais Claude Julien après le match, puis le Canadien, mettons, gagne, mais 5-3. Ça me tente pas.
Non, 5-3, non. Non, il y a des ailes encore pour tout le monde. C'est intéressant parce que j'écoutais Kyle Dubas hier au point de presse des Maple Leafs de Toronto, puis je vais le faire entendre tantôt dans l'avant-match. Puis la première affaire que le directeur général a dit, après avoir dit qu'il sentait que ses gars étaient prêts, parce que les gars des Leafs étaient nombreux à la phase 2 à s'entraîner ensemble, puis ça, le GM a bien aimé ça, là. Mais il a dit après, il dit, ce qu'on a à prouver, là, il dit, c'est que les quelques matchs où on a été vraiment dominant défensivement, pour aspirer à des championnats puis à avancer comme organisation, on doit le faire sur une longue période. Puis il dit, moi, je veux voir ça assez rapidement. Alors, tu sais, tu parlais de la performance défensive. Je pense que les Leafs n'ont pas peur de la force offensive du Canadien. Mais pour la bonne marche, la suite des choses à Toronto, là, moi, je pense qu'ils vont s'appliquer vraiment défensivement aussi ce soir, eux, parce que c'est un enjeu.
C'est un enjeu pour leur
organisation. Ouais. S'ils veulent passer à l'autre niveau, ils doivent absolument faire ça. Alors, je ne sais pas si on va avoir deux clubs campés en défensive, mais c'est sûr que les Leafs, vraiment, là, parce que contre le Canadien cette année, là, les Leafs n'ont pas été géniales, mais pas pantoute. Dans leur zone, là, c'était vraiment moche.
Je vais dire les vraies affaires, ils n'ont pas été géniales beaucoup.
Presque
là.
Toute l'année, là, d'ailleurs.
Ça a été une année difficile pour eux. Puis c'est une équipe qui cherche, Martin, tu as raison. Puis c'est pour ça que Dubus prend la peine de ramener les choses en perspective. Ouais. Il n'y a pas une équipe qui gagne si elle n'est pas impeccable défensivement. Et ça inclut les bonnes équipes. Les Pingouins savent comment faire.
Ah, clairement.
Hey, les Capitals de Washington ont prouvé ça. Ont fini par gagner la Coupe quand ils ont commencé à jouer en équipe.
Exactement. Le collectif fait toute la différence. Bon, messieurs, 28 juillet, on va se parler de hockey, on va écouter du hockey. Est-ce que vous avez pratiqué vos interrelations, pratiqué vos relances?
On essaie de moins pratiquer le possible nos interrelations.
Non, on a gardé une certaine distance et là, je partage ça avec nos auditeurs.
C'était plus que 2 mètres, ça, je peux te dire.
Je partage ça avec nos auditeurs. Ils nous ont fait vraiment quelque chose de bien. Les installations ici, j'aime beaucoup parce que la distanciation, elle est évidente entre moi et Martin. Donc, finalement, mon café va être en sécurité.
Et tu vas avoir de la place pour tes feuilles.
C'est ça.
Martin McGuire, Danny Dubé, merci beaucoup.
À tantôt.
Merci d'avoir été avec nous.